Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Pierre Cardin nous a quittés hier à l'âge de 98 ans. En janvier 2019, il avait été mon invité à l'occasion de la 500e des clés d'une vie. Il m'avait reçu dans son bureau, juste en face de l'Élysée, pour me raconter un parcours unique qui a duré plus de 70 ans.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, avec un invité qui est l'un des 5 Français les plus connus dans le monde. Vous êtes né près de Venise avant de vous lancer dans des activités où vous avez comblé bien des lacunes et pas des lagunes. Ce qui demeure votre premier métier, même s'il y en a eu beaucoup d'autres, vous a permis de connaître le monde sous toutes ses coutures. Vous demeurez aujourd'hui l'un des 5 Français les plus connus dans le monde. Bonjour Pierre Cardin.
Bonjour.
Alors c'est vrai que nous sommes dans votre bureau qui est près de chez vous, c'est-à-dire que vous vivez dans le quartier de Marigny, près de l'Élysée, et vous êtes pratiquement le seul habitant du quartier.
Oui, j'habite ici depuis 70 ans, c'est vous dire si longtemps que je suis dans le parage du président.
Oui. Vous en avez vu passer des présidents?
J'en ai vu passer 8.
8, ça fait quand même beaucoup, oui.
En tout cas, j'en ai vu pas mal, oui.
Alors, le principe de l'émission, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Pierre Cardin, c'est le 29 octobre 1946, la sortie d'un film de Jean Cocteau qui s'appelle « La Belle et la Bête ».
Oui, j'ai travaillé avec Jean Cocteau et à ce moment-là, il y avait Bérard. Christian Bérard comme décorateur pour les costumes de La Belle et la Bête, auquel j'ai participé d'ailleurs, et qui a été un moment décisif de ma vie, car dans la vie, pour réussir, il faut avoir un certain talent, mais également avoir des relations. Donc par conséquent, je suis tombé dans le pile même à 20 ans, avec tous les gens les plus brillants de Paris, et qui m'ont permis d'avancer dans mon métier, de faire des relations, et en même temps de réussir ces gens-là, je ne serais peut-être pas Pierre Cardin.
Alors justement, comment avez-vous rencontré Cocteau? Comment s'est fait votre travail? Vous avez réalisé, je crois, des costumes et des masques pour La Belle et la Bête.
J'ai travaillé sur les costumes du film et du film également, étant donné que c'était quand même pour moi d'arriver à Paris à l'époque, c'était une aventure. Et j'ai réussi à me réaliser à travers ces gens-là, en réalité.
Et Cocteau, vous l'avez connu comment?
En travaillant dans La Belle et la Bête. Et
comme ça, il vous a engagé directement?
Oui, on m'a engagé. J'étais sympathique à l'époque. Et mes relations physiques, peut-être, ont joué beaucoup. Et voilà, j'ai tout de suite eu la chance de travailler avec des gens brillants, des films, qui étaient le tout Paris à l'époque.
Oui, et il y avait une dame, elle était morte, mais c'est la maison Jeanne Paquin aussi qui a été importante.
Jeanne Paquin, je ne l'ai pas connue, mais je connaissais sa maison, qui était Faubourg Saint-Honoré, près de la rue Royale.
C'est une des premières à avoir fait de la couture un peu comme vous, de la mode. Et d'ailleurs, on la connaît dans une chanson que Marie-Paul Bell et Annie Cordy ont reprise, qui est La Biaiseuse, où on dit « Je suis biaiseuse chez Paquin ». Alors, il y avait également dans ce film Jean Marais, que vous avez rencontré.
Écoutez, Jean Marais, on a souvent, c'était un ami, on dînait souvent ensemble, et c'était un être exceptionnel comme acteur. Mais à l'époque, il n'était pas à la mode parce qu'il avait une voix particulière. Et les gens sortaient du français. Ils avaient des voix très, très portantes, comme ça. Et Jean parlait comme ça. Alors, ça n'allait pas du tout au point de vue phonique.
Surtout que La Belle et la Bête, il y avait 5 heures de maquillage tous les jours, je crois, pour toi.
Et oui, on mettait le masque, qui était assez extraordinaire d'ailleurs, que j'avais fait avec la collaboration de Bécaud, M. Bécaud, qui n'est plus là, je crois.
Faire des masques, c'était votre premier métier au départ. Vous avez appris beaucoup de choses.
C'est-à-dire, je suis tombé dans le milieu. C'est Dior qui m'a parrainé, étant donné qu'il voulait que quand j'ai quitté Dior, je suis rentré, j'ai fait ma maison de mode.
Alors, il y avait Christian Bérard. Christian Bérard, on a oublié son nom, c'est un personnage important.
Bérard était un grand ami de Cocteau.
Et c'était un décorateur.
On le voyait toujours ensemble, d'ailleurs.
C'était un décorateur.
Un dessinateur-décorateur, oui.
Il vous a appris l'élégance, je crois.
La classe et l'élégance, oui. Lui était très, très, très barbu, très sale, très de la médecine. Oui. Et c'est grâce à Cocteau, à Bérard et à Christian Dior que je dois ma réussite en réalité.
Oui.
On est toujours à la réussite de quelqu'un.
Et justement, Bérard a été important, mais il y a aussi une maison qui s'appelle Elsa Schiaparelli qui a été importante pour vous.
Schiaparelli, j'ai travaillé 3 mois chez Schiaparelli, oui, quand elle est partie en Amérique.
Et c'était une femme extraordinaire. Marisa Berenson, qui est sa petite nièce, m'en a parlé.
Oui, tout à fait, oui.
Elle avait inventé quelque chose qui apparaît lit.
Elle avait une espèce de d'arrogance provocatrice. Un peu Jean-Paul Gaultier, si l'on peut dire.
Oui.
C'était Jean-Paul Gaultier de l'époque.
Jean-Paul Gaultier a aussi été votre élève.
Eh bien, oui. Mais oui, il a commencé chez moi.
Et vous pensiez qu'il aurait cette réussite ?
Sûrement, c'est les gens qu'on rencontre qui font la réussite aussi. Le talent, évidemment, mais tout de même, si on n'a pas quelqu'un qui vous plaît, qui vous fait confiance.
Mais en même temps, comment vous avez connu Gaultier ? Il est venu chez vous pour apprendre le métier ?
Gaultier, il est venu se présenter pour apprendre comme apprenti. Et je l'ai engagé dans cette maison-ci, au 7e étage.
Et vous pensiez qu'il avait un avenir ? Vous avez deviné ?
Enfin, il avait un coup de crayon qui me paraissait un peu fou, mais qui était intéressant, donc c'est pourquoi je l'ai engagé.
Et quand vous voyez sa réussite aujourd'hui, ça vous surprend ?
J'en suis très, très, très heureux pour lui.
J'en reviens au cinéma, il y a quelqu'un qui a été important pour vous aussi, c'est Jean Delannoy, Pierre Cardin.
Oui, j'ai très bien connu Jean avec sa femme, qui était déjà merveilleux, avec Marcel Escoffier également, que je n'oublie pas.
Car vous avez travaillé pour lui aussi sur des décors de films.
Avec Marcel Escoffier, oui, il était l'assistant de Jean Couteau.
On a oublié, mais Jean Delannoy était à la première Palme d'Or du Festival de Cannes.
Voilà, tout à fait, avec Michel Morgan.
La symphonie pastorale.
Avec Michel Morgan comme actrice, oui.
Et Michel Morgan, vous l'avez connu comme...
Très bien, oui.
Et qu'est-ce que...
Je vivais beaucoup dans le théâtre-cinéma.
Oui.
Donc ça m'a permis d'avoir des relations artistiques, en réalité.
C'était quelqu'un de très timide, Michel Morgan.
Posé. Pas timide, elle osait assez dire les choses.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez eu plein de maîtres, mais vous avez toujours voulu être différent des autres.
Ben, j'ai jamais voulu avoir de financier, puisque je pouvais me survivre moi-même, avec mes économies qui n'étaient pas très grandes à l'époque. Et j'ai réussi à me réaliser sans besoin des autres.
Oui, mais en même temps, au départ, dans la mode, vous avez voulu faire quelque chose de différent des autres, Pierre Cardin.
Eh bien, j'avais 20 ans à l'époque, donc quand j'ai quitté Dior, j'en avais 24, soit 23. Donc j'avais de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Pas de l'orgueil, de l'ambition.
Il faut travailler surtout.
Et être travailleur, oui, mais samedi, j'allais pas dans les boîtes de nuit. J'allais plutôt travailler.
Et aujourd'hui, vous continuez à travailler tous les jours.
Même aujourd'hui, les dimanches. C'est mon passe-temps, c'est mon divertissement.
Mais comment on fait pour
trouver mon équilibre dans le travail. J'ai trouvé que le travail, c'est la noblesse de la vie. Et je me sens bien dans le travail, plus que dans l'amusement.
Oui, mais en même temps, dans le travail, vous créez sans arrêt. À 97 ans presque, vous continuez à créer.
Je continue, oui. Régulièrement, je suis dans mon travail. Dans mes bureaux, j'en ai trois ici. Chacun a leur spécialité. Et je continue à faire ce que je dois faire pour les responsabilités que j'ai entrepris.
Et vous êtes, alors, au départ, né près de Venise.
Moi, je suis né à Sant'Andrea di Barbarana. C'est une maison de campagne de mes parents qui est à 15 km de Venise.
Et vous êtes d'une famille d'agriculteurs, je crois.
De terrien, oui, de terrien. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'industrie. On parle d'industrie aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait très peu. C'était tout des terriens, des cultivateurs, en somme, des seigneurs de la terre.
Il y avait beaucoup d'enfants dans la famille.
On était nombreux, oui, mais moi, j'ai toujours vécu seul.
Ah bon ?
Oui, parce que je me sentais libre.
Libre, vous avez déjà envie de liberté, de faire autre chose ?
Oui, déjà, oui.
Et alors, ce qui s'est passé, je crois, c'est que vous êtes venu très vite en France. Pourquoi ?
À cause de Mussolini. Mes parents sont venus en France à cause de Mussolini. Parce qu'ils étaient anti-Mussolini et ils fuyaient la politique, en somme.
Et donc, vous êtes venu en France, vous aviez 2 ans, je crois.
J'avais 2 ans, 2 ans et demi, oui.
Donc, vous n'avez aucun souvenir de l'Italie de cette époque ?
Non, seulement un train, quand j'ai pris le train. J'avais 2 ans et demi.
Et vous êtes retrouvé à Saint-Étienne. Pourquoi Saint-Étienne ?
Parce qu'on a échoué à Saint-Étienne avant de retourner en Italie. On était de passage, en réalité, à Saint-Étienne. On devait retourner et puis, malheureusement... Les événements, j'étais un roman.
Oui, un romanichel, oui.
Un romanichel, voilà.
Et donc vous êtes resté à Saint-Étienne, vous avez commencé à grandir à Saint-Étienne.
Jusqu'à l'âge de 16 ans.
Et vous parliez français ou italien ?
Mes parents ont très vite appris le français. Non, pas d'ailleurs, on parlait français et italien, je comprends, je parle molto bene.
Oui.
Le capisce tutto.
Mais sinon, vous avez été à l'école en français.
En français, j'ai fait mes études en France, oui.
Ça vous intéressait, l'école ?
J'étais pas mauvais, mais j'étais pas brillantissime. C'est-à-dire que j'étais parmi les moyens.
Et vous avez, je crois, commencé comme apprenti chez un tailleur à Saint-Étienne.
Et oui, parce qu'il fallait travailler, il fallait vivre.
Parce que vous avez quitté l'école très jeune?
Eh bien, à 15 ans, j'ai quitté l'école, oui.
Vous avez fait beaucoup d'autres choses. On en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 26 février 1958. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Cardin.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Pierre Cardin nous a quittés hier à l'âge de 98 ans. Je l'avais reçu voici près de 2 ans dans les clés d'une vie. Il m'avait raconté combien le créateur avait été aussi un pionnier de la communication et du marketing.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Cardin. Des souvenirs, vous en avez. On part, comme d'habitude, sur une date, 26 février 1958. Alors, je vous explique. J'ai retrouvé une archive des actualités françaises, la mode du printemps 58. Il y a Manguin, Jacques Griff, et vous présentez, c'est votre première télé, la ligne SERP. Ça vous dit quelque chose, Pierre Cardin ?
La ligne SERP ?
Oui. Vous présentez la mode, et c'est la première fois qu'on vous voit à la télévision.
Ce que veut dire SERP ?
Je ne sais pas. À l'époque, le journaliste parle d'une ligne SERP, que vous montrez un modèle d'une femme avec une ligne SERP. Je ne sais pas ce que c'est.
Mais je ne sais pas ce que c'est qu'une SERP.
Voilà, moi non plus. Mais c'est comme ça qu'on vous présente. Parce que la télévision, au départ, vous avez été aussi un des pionniers de la télévision.
Oui, j'ai fait beaucoup de... On me prenait parce que j'étais jeune à l'époque.
Oui.
Et les journalistes aimaient beaucoup. Je n'étais pas culotté, mais j'étais aisé. J'avais de l'aise à la télévision, donc on me demandait, comme vous-même d'ailleurs, vous avez fait au début.
Et on vous demandait aussi beaucoup. Alors, votre première boutique, pourquoi et comment avez-vous décidé d'ouvrir votre première boutique, je crois, 10 rue Riche, je pense, Pierre Cardin?
Parce que Dior, j'avais quitté Dior, et j'avais un appartement rue Riche, je pense, et je me dis, tiens, je vais faire ma première collection ici. Et j'ai présenté la collection avec les dames... Les journalistes assis sur le tabouret.
Ah bon ?
Dans l'atelier.
Et c'était nouveau, ça ?
J'avais pas de moyens.
Oui.
À part les roses de Christian Dior qui étaient énormes.
Vous n'aviez pas de moyens, mais les journalistes ont été surpris alors que d'habitude, ils sont bien accueillis.
Oui, parce que j'étais jeune à l'époque, j'avais 20 et quelques années. J'étais sympathique, je crois. Et puis les journalistes étaient très sensibles à ma spontanéité, ma vérité.
Et vous aviez aussi une boutique qui faisait des costumes de scène, Pierre Cardin.
J'ai commencé par les costumes de théâtre et de music-hall.
C'était Pasco, je crois.
Pasco, que j'ai racheté l'affaire Pasco.
Et qu'est-ce que vous faisiez comme costume de théâtre et de music-hall ?
Oh, j'en ai fait pas mal, vous savez, j'en ai fait pas mal. J'ai travaillé donc avec Bernard Lacocteau. Et puis il y avait bien d'autres avec Bessegui, avec Arturo Lopez, les balles de Bessegui.
Oui, car il y avait des grands balles à l'époque.
À l'époque, il y avait des grands balles, oui.
Qu'est-ce que c'était la nuit parisienne
Il y avait une actualité d'amusement. On sortait de la guerre de 1940. On avait envie de rire et de s'amuser. Et il y avait beaucoup de balles, oui.
Et beaucoup de balles avec beaucoup d'élégance.
Oui, il y avait Marie-Léa Rochas, il y avait le bal de Rochas, il y avait tous les grands.
Les Rothschild.
Marie-Hélène Rothschild.
Il y avait aussi...
Bessegui.
Il y a Francine Vesveler qui recevait.
Francine également, que j'ai très bien connue, que j'ai habillée aussi à l'époque. Non, j'ai fait beaucoup de travail pour le...
Ça veut dire qu'il fallait aller dans les soirées bien habillé. On s'habillait à l'époque pour sortir.
On s'habillait beaucoup. On se déguisait même.
On savait que tel jour, dans un an, il y aurait telle fête,
voilà,
à tel endroit.
C'était fixé.
Et ça durait toute la nuit? Comment ça se passait?
Eh bien, il y avait un dîner, il y avait un bal, il y avait de la musique, on dansait.
À l'époque, le journaliste, c'était le soiriste, il recevait un louis d'or pour sortir le soir, car on avait de l'argent pour sortir.
En tout cas, je ne peux pas vous dire, parce que je n'étais pas dans leur porte-monnaie, mais je veux dire, en principe, ils avaient de l'argent, oui, pour s'habiller d'abord. Ça coûtait. J'ai fait un costume qui a coûté 1 million à l'époque, pour Alexis.
Alexis.
Un costume brodé d'or.
Oui.
À l'époque.
Et c'était pour qui?
Elle est pour Alexis Trédé.
Carrément. Mais c'était de la folie, c'est des costumes qu'on...
Mais oui, il y avait de la folie.
Mais vous faisiez tout, c'est-à-dire que même dans vos ateliers, quand quelqu'un ne savait pas coudre un bouton, vous montriez comment il fallait coudre.
J'ai voulu apprendre. Je sais coudre, faire une boutonnière, ce qui est plus difficile à la main.
Oui.
J'ai voulu apprendre. Parce que pour donner des ordres intelligents, il faut savoir le faire.
Et vous avez souvent fait pour vos collaborateurs?
Absolument. Je les épatais.
De quelle manière?
En leur faisant voir comment il fallait faire. En apprentissage, en somme.
Mais vous étiez tous les jours et vous continuez à être tous les jours dans les ateliers?
Tous les jours, toujours. J'ai commencé ma carrière devant la grille du président. J'avais 20 ans. devant le 82 du Faubourg Saint-Honoré, devant juste à la porte du président. Et puis après, j'ai habité ici, et puis je suis toujours ici.
Et tous les jours, vous êtes dans les étages?
Tous les jours.
Enfin,
quand je suis à Paris.
Oui, parce que vous voyagez beaucoup. Mais pour vous, c'est important de suivre le travail au quotidien. Il y a peu de patrons qui font
ça. Je suis patron quand même, ne l'oubliez pas. J'ai des responsabilités. Je me dois fournir du travail à mon personnel, le diriger, prendre des décisions. Et financièrement et professionnellement.
Et vous avez été le premier à croire, Pierre Cardin, que la haute couture c'est bien, mais qu'il ne faut pas oublier le prêt-à-porter.
Oui, j'étais bien dans le prêt-à-porter. Pourquoi ? Parce que je voulais démocratiser mon métier.
Pourquoi il n'était pas...
Pourquoi est-ce qu'il y a que des gens riches qui peuvent s'habiller en créativité ? Et j'ai créé le prêt-à-porter.
Et c'est venu comment ça ? Une idée, une envie ?
Une idée que j'ai présentée à la presse. Le prêt-à-porter qui a été un triomphe d'ailleurs.
Mais présenter une collection dans les grands magasins aujourd'hui.
C'était culotté, oui.
Comment est venue l'idée ?
C'était culotté.
Alors, on sait que le magasin du printemps, ils ont été inaugurés en 1865 et le magasin a été béni par le curé de la chapelle voisine de Saint-Louis-d'Antin. À l'ouverture du printemps, c'est le curé qui a béni le magasin.
Ah oui.
Ah, c'est étonnant comme histoire.
Oui, oui.
Et alors, en même temps, vous avez toujours préféré les événements avec la presse à la publicité traditionnelle.
J'ai toujours été près de la presse, parce que j'ai toujours donné satisfaction à leurs demandes. Parce que je dis, on peut avoir du talent, si on n'a pas la presse avec, ça ne sert à rien, en tout cas pour la réussite.
Mais aujourd'hui, tout le monde fait des événements, vous avez créé des événements avant tout le monde.
Oui, j'en ai créé. Vu mon âge, j'en ai créé pas mal.
Oui, mais vous êtes le premier à avoir créé des événements.
Voilà, oui, oui.
Comment vous avez eu l'idée de faire, alors que tout le monde faisait de la pub dans la presse, de faire des événements plutôt que
non,
des
pensées ? Pour faire parler de moi.
Voilà.
J'étais assez ambitieux, comme je vous l'ai dit, et je me suis dit, le moyen, c'est ou d'acheter les pages, mais je n'avais pas d'argent pour payer les pages, ou alors faire des événements et faire parler de moi à travers eux.
Et ça a marché.
Ça a très bien marché. La preuve, c'est que je suis quand même ici depuis 70 ans, j'habite ici, 70 ans.
Il y a un journal qui vous a aidé beaucoup au début, c'est le journal Elle.
Hélène m'adorait.
Hélène Gordon-Lazareff.
Elle m'a beaucoup protégé. Elle m'a fait même un journal, elle, entier. Tout le journal était sur moi.
C'était une première.
C'était une première dans un journal. Tout le journal, toutes les pages du journal étaient Pierre Cardin.
Et ça, effectivement, ça vous a fait des amis et des ennemis.
Ah ben ça, évidemment. On est jalousé quand on est protégé.
Et surtout, elle, c'était un journal très important. Parce
c'était le magazine le plus important. Il y avait l'Officiel également, avec Madame Castagnier. Vous l'avez connue ?
Oui.
Elle aussi m'a beaucoup protégé.
Oui, parce que finalement, vous étiez bien avec ces gens.
Je leur donnais de la nourriture, si vous voulez. Je leur donnais des moyens.
Vous donniez de l'information.
Voilà.
Et est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui, dans cette époque où...
Non, parce que les journaux ont besoin de vivre aujourd'hui. Il faut qu'ils vivent, les journaux. Ils ont besoin d'avoir de la publicité.
Oui, mais ce que vous avez fait, finalement, vous êtes tombé au bon moment, à la bonne époque.
À la bonne époque, voilà.
Et alors, elle a été publiée pour la première fois, juste après l'adoption du droit des votes des femmes. Et ça a beaucoup aidé au succès de elle, puisque les femmes avaient un gros progrès avec le droit de vote. Et c'est ce qui a lancé le magazine. Alors, le premier succès aussi, c'était les robes bulles.
Ah, ça a été un événement, ça. Je vous ai inspiré des ballons. Des ronds, et ça a marché.
Ah, ça a très bien marché.
Très bien marché.
C'est-à-dire que toutes les femmes avaient des robes bulles, ensuite.
On avait des robes bulles, oui, des robes ballonnées, enfin.
Et le premier pays où on vous est accueilli, c'est le Japon.
Je suis allé au Japon à l'époque, il y a très très longtemps, oui. Oui, c'est en exportation, c'est le Japon, après l'Amérique. Enfin, j'avais été en Amérique en 1952, déjà. J'ai beaucoup voyagé avant, même.
Oui, car votre principe a été de ne pas vous limiter à la France.
Non, tout de suite d'aller à l'extérieur.
Parce que personne ne le faisait à l'époque.
Non.
En plus,
c'est le premier d'aller au Japon, en Amérique, en Chine, pas en Chine, c'est en Chine aussi, mais bien après.
Et au Japon, vous avez même été professeur dans une école de ski.
Université, oui. J'ai fait toutes les universités, les Sorbonne du Japon, l'équivalent en Chine, l'équivalent partout. En Corée, partout. Je suis allé partout.
Et comment est venu...
En Australie, au Brésil, en Argentine, au Mexique. Je suis allé dans tous les pays du monde.
Et puis, il s'est passé quelque chose d'autre. Le 2 octobre 70, on en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Pierre Cardin.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Pierre Cardin nous a quittés hier, à l'âge de 98 ans. Le créateur de mode était aussi un passionné de théâtre. À la fin des années 60, il a créé un lieu à Paris, près des Champs-Élysées. L'aventure a duré plus de 40 ans.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Cardin. On parle de votre parcours, de votre long parcours à travers des dates. Le 2 octobre 1970 est un jour crucial, car sur les Champs-Élysées, vous ouvrez l'espace Cardin. Ça, c'est un événement que vous n'avez pas oublié, Pierre Cardin.
Non, ça, je dois dire, d'être rentré dans le théâtre. J'étais dans le théâtre parce que, comme vous avez entendu, j'ai quand même vu beaucoup d'acteurs, de metteurs en scène, d'écrivains, de musiciens, de chefs d'orchestre, de gens comme ma vie a été faite dans l'art, en somme. Et c'est vrai qu'à l'époque, d'avoir un théâtre à acheter, j'ai vu que c'était à vendre. C'est Carcinti qui était le propriétaire, le bailleur.
Ça s'appelle à l'époque le théâtre des ambassadeurs.
Voilà. J'ai trouvé que des ambassadeurs, il y en a des centaines. Il fallait mieux mettre un nom. Et j'ai cherché quel nom je pouvais mettre. Je veux un espace, vous entendez, un espace. Je suis resté bloqué dans ce mot-là. J'ai dit, mais voilà, je l'ai trouvé, non, c'est l'espace qu'il y en a.
Et c'est comme ça
qu'il... C'est passé comme ça.
Et donc, ce théâtre des ambassadeurs, au départ, c'était un café, en 1772, un café avec des ambassadeurs, juste à côté de l'endroit où logeaient les ambassadeurs.
Voilà.
Et c'est devenu un repère du CAF-CONS, du café-concert. Et vous l'avez entièrement transformé.
Ah oui, j'ai fait beaucoup de travaux, beaucoup de dépenses. Et la ville m'a donné la concession, c'était une concession. Hein.
C'est-à-dire que vous avez gardé ce théâtre pendant 45 ans.
Personne n'a un théâtre, même la ville n'a pas un théâtre de 45 ans.
Et ça veut dire un travail quotidien, mais ça vous a passionné.
Et pas mal de millions.
Oui. Vous m'avez dit un jour que si avec ce que vous avez perdu à l'espace Cardin, vous auriez pu acheter 50 châteaux.
Voilà, c'est vrai. Mais... J'ai dépensé beaucoup d'argent parce que j'ai fait 547 spectacles. 547 spectacles. Vous savez ce que coûte un spectacle? Nous avons travaillé ensemble.
Oui. Et alors, mais pourquoi avoir fait justement ce mécénat de l'art, justement,
car vous... Parce que j'ai trouvé que c'était une manière de faire parler de la marque Pierre Cardin.
Oui.
C'était un biais de la publicité.
Et en même temps, le théâtre, ça vous passionnait.
Et en plus, j'aimais le théâtre, bien sûr. Parce que moi, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais enfant.
Ah bon?
J'étais comédien jusqu'à quand j'avais 8, 9, 10 ans. J'étais l'enfant de la balle, combattais tout le temps.
Oui.
J'étais un vilain petit garçon.
Et vous étiez comédien où ça? En famille? À l'école?
À l'école, au patronage, à Saint-Étienne.
C'était des pièces de théâtre?
C'était des pièces de théâtre, oui.
Et des pièces connues ou inconnues?
Non, c'était des pièces de patronage, vous savez comment c'est. Et alors? Enfin, j'ai quand même... Je voulais être comédien, mais après, ma vie s'est dirigée vers la mode, alors j'ai... Mais on voulait que je sois comédien, oui. Le Chandelanois dont vous parliez très justement voulait que je fasse la comédie.
Et vous n'avez pas voulu.
J'avais une gueule, ce qu'on appelait, j'avais une gueule. C'est pas parce que avec ta gueule, tu devrais faire du théâtre, elle me disait.
Et vous n'avez pas fait?
Non.
Pourquoi? Par manque de...
Parce que j'étais parti déjà dans la voie de la mode.
Et puis alors, vous avez choisi de programmer des spectacles difficiles toujours, innovants.
Oui, Le regard du sourd, de Bob Wilson, quand même un événement.
Alors justement, comment choisissiez-vous vos spectacles, Pierre Cardin?
L'arc sur le lac de Constance.
Oui.
Qui a été
la chevauchée sur le lac de Constance.
Voilà, ça a été également un événement. Non, j'ai pris position dans des spectacles de haut niveau.
Et votre aventure la plus difficile, ça a quand même été Marlène Dietrich.
Oui, je fais Marlène parce que je trouve qu'elle est mythique dans le cinéma.
Oui. Marlène Dietrich, ça a été votre premier spectacle à l'espace Cardin, votre premier grand spectacle.
Non, j'ai eu la fête Gérald, Dionne Warwick, Shirley Bassey. Non, j'ai eu pas mal de stars quand même.
Et Marlène Dietrich?
Et Marlène Dietrich, bien sûr.
Vous aviez aussi un restaurant à l'espace Cardin.
Ben, c'était le premier restaurant open. On avait tous les soirs jusqu'à 3-4 heures du matin, Yves Mourouzi, tout le monde était là. Les ambassadrices d'Amérique, d'Angleterre, d'Espagne, de France, tout le monde était là.
Oui, c'est un restaurant.
Et vous.
J'étais là aussi, mais sur, c'était un restaurant où vraiment on avait besoin de rencontrer quelqu'un dans Paris. Il était là.
Il y avait Madame Pompidou qui venait, Madame Chirac. Enfin, j'avais tout Paris et les étrangers. C'était un énorme bar. On servait quoi.
On servait. C'était un libre service et les gens
c'était
venaient.
C'était le premier self-service de Paris.
Premier self-service de Paris destiné aux personnalités.
Oui. Ça a duré longtemps d'ailleurs.
Et vous-même, vous étiez là tous les soirs tranquillement.
Ah ben oui, c'était un amusement pour moi. Edith Piaf était là aussi tous les soirs. Il y avait tout le monde, quoi, parce que j'allais dire tout le monde à travers Edith.
Et il y avait aussi Thierry Leluron qui était là souvent.
Ah ben lui, c'est un fidèle, lui, là. Thierry était là tous les soirs avec Jacques Chazot, avec la barre de Paris, quoi.
Oui, et Leluron, c'est le dernier endroit où il est dîné avant de s'enfermer dans son hôtel.
Tout le temps. Il venait tous les soirs, il était là.
Et son dernier dîner dans Paris, ça a été chez vous. C'est quelqu'un qui nous manque, Thierry Leluron.
Il n'y a pas l'équivalent qui l'a remplacé, non. On ne remplace pas quelqu'un comme Thierry.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier ?
Ben, il avait de la gentillesse d'abord. C'est-à-dire qu'il était possible de communiquer avec lui. Et puis il avait son talent personnel, bien sûr, que vous l'avez connu, Thierry.
Bien sûr. Vous avez aussi fait à l'Espace Cardin les premières ventes aux enchères de l'art moderne.
Ben, c'était l'espace.
Et ça, fallait oser le faire, parce que
et
ça,
voilà, ouais.
c'était aussi pas évident que le public vienne, fallait toujours innover.
Non, mais on a eu beaucoup de succès tout de même.
Alors, vous avez aussi ressuscité Lacoste. Vous avez racheté le château du Marquis de Sade.
Ah ben oui, ça c'est... ça c'est une autre histoire, alors ça, oui.
Racontez-moi.
Parce que la personne qui en était propriétaire voulait que ce soit moi qui succède. Elle n'avait pas d'enfant. Elle voulait que ce soit moi parce qu'elle trouvait que j'étais... D'abord, c'est presque une amie. Et elle trouvait que j'avais des idées très différentes des autres. Et elle m'avait demandé si je voulais bien l'acheter, qu'elle me donnerait la préférence.
Et vous avez acheté un château pratiquement en ruine.
En ruine. Et je l'ai restauré.
Entièrement.
J'ai dépensé 13 millions à l'époque.
Et pourquoi cette envie de restaurer ce château mythique ?
Parce que j'ai envoyé des conséquences artistiques. Je me suis dit, je vais pouvoir faire des pièces de théâtre, je vais habiter un château.
Oui.
Lequel de Marquis de Sade, quand même ? Entre Casanova, que j'ai à Venise, que je suis propriétaire du château de la demeure de Casanova,
oui.
À Venise, et puis avec le Marquis de Sade, je suis bien placé.
Et donc vous avez restauré le château, vous avez même créé un festival.
Ah oui, un très beau qui marche bien, maintenant ça y est, il a pris racine.
C'est-à-dire que tous les étés, dans un lieu que vous avez fait, mais construire.
Magique. Ouais. Et open air et intérieur.
C'est-à-dire que vous avez transformé une carrière en salle de théâtre.
Exactement, et il y avait de l'intérieur également.
Oui, et ce château, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est Marcel Julien, qui avait essayé de restaurer le château. Marcel Julien avait tenté de restaurer.
Non, l'écrivain.
Oui, il avait tenté de restaurer le château du Marquis de Sade, il n'y était pas arrivé. Ah, oui. Vous y êtes arrivé.
Il avait commencé un livre sur moi.
Et alors ?
Et puis là, il nous a quittés, comme vous le savez.
C'est curieux qu'il n'y ait pas de livre sur vous racontant votre biographie. Vous n'avez pas voulu le faire ?
Non, je n'ai pas voulu le faire. J'étais encore trop jeune.
Vous êtes trop jeune ? Vous n'aimez pas qu'on...
Y a plein... Non, il y a des choses qui n'intéressent pas. La vie privée, c'est...
C'est autre chose.
C'est vrai que j'ai eu une vie assez mouvementée, assez privée, assez publique, en somme. Mais enfin, je trouve que ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est mon travail.
Alors justement, ce travail, non seulement vous avez racheté le château du Marquis de Sade, mais vous avez racheté tout le village, pratiquement.
On est venu de me le vendre.
C'est-à-dire ?
C'est pas moi qui voulais aller chez vous, vous dites « vendez-moi votre maison
oui. ».
C'est la personne qui est venue me voir. « Je voudrais vendre ma maison, est-ce que ça vous intéresse ?» C'est très différent.
Vous avez acheté d'innombrables maisons ?
Oui, il y en a 40.
40 maisons ?
Oui.
Mais est-ce que, je sais que vous avez des appartements un peu partout, est-ce que vous savez à peu près ce que vous avez ou pas du tout, Pierre Cardin ?
Là, c'est une question que vous me posez qu'il faut que je compte. Il faut que je compte.
Parce qu'il y a des appartements, des maisons où vous n'êtes
oui,
jamais allé.
Oui, c'est vrai que j'ai des maisons très belles. Maintenant, ma dernière maison que j'ai montée maintenant, c'est à Oudan.
Oui.
À Oudan, où j'ai fait un truc très extraordinaire. Une université de mode à Oudan.
Oui. Une université de mode pour les étudiants ?
Pour les étudiants, oui.
Et qui vont s'installer
c'est
là-bas ?
C'est à 40 minutes de Paris.
Oui. Et ça, c'est ouvert déjà ou pas encore ?
On y travaille, j'ai des dossiers là-bas.
Et puis, il y a eu le Palais Bulle à Théoule-sur-Mer. Ce Palais Bulle, au départ, c'était pour avoir un musée, c'était pour quoi ?
C'était pour faire un musée, oui.
Et vous l'avez fait, finalement ?
Ben, je l'ai fait, en tant que pierre des pierres.
Et il y a eu aussi un autre musée que vous avez fait beaucoup plus tard à Saint-Ouen.
Ça, c'est la mode, alors. Ça, c'est la...
Vous n'avez pas attendu qu'on vous mette dans les musées, vous faites vos musées.
J'ai mon musée.
Voilà.
Oui, j'ai mon musée à Saint-Ouen, il y a 200, 300 robes d'exposés.
Car vous avez tout gardé.
Oh, j'en ai plus de 1000.
Vous avez plus de 1000 costumes.
Plus de 1000 robes.
Oui, vous avez toujours tout voulu garder.
Ah, mais oui, ce sont des originaux.
Et alors, il y a aussi Buzz Aldrin, l'astronaute. Comment est née cette rencontre avec Buzz Aldrin?
Eh bien, je l'ai vu deux fois. Une fois à Ulaanbaatar, en Russie.
Buzz Aldrin est le premier homme à avoir marché sur la Lune.
Voilà. J'ai marché dans le costume de l'homme qui a marché sur la Lune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Habillé dans le costume et marché. Moi, je n'y crois pas quand je n'y parle.
Et comment c'est venu, ça?
Ben, j'étais à Houston en Amérique et j'ai demandé au gardien de me laisser essayer le costume. Il était déjà sous coupole en verre, comme une grande...
Comme une relique.
Voilà. Et j'ai soudoyé, j'ai donné 50 euros au gardien. À l'heure du déjeuner, il a fermé les portes et il m'a laissé m'habiller. J'ai marché dans le costume de celui qui a marché sur la Lune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des anecdotes que j'ai.
Oui, et qu'est-ce qu'on ressent comme impression?
Vous savez, ça paraît lourd, c'est pas lourd, c'est très léger, on est de la plume. Vous marchez comme s'il y avait un costume en plume. J'ai eu des joies extraordinaires quand même, hein, des trucs formidables.
Et vous avez rencontré tous les chefs d'État?
Tous les cosmonautes.
Et tous les chefs d'État?
Ah mais oui, ça oui.
Vous avez rencontré Fidel Castro.
Même le pape, de tous les papes aussi.
Oui, et vous avez rencontré...
Mais oui, Fidel Castro, vous connaissez les photos de Fidel Castro.
Oui, bien sûr. Mais vous avez habité chez lui.
Oui, deux dîners.
Et comment ça s'est fait?
Eh bien, j'avais été demandé de le rencontrer. Il m'a reçu et il m'a invité à dîner avec tous les ministres. Une fois et une deuxième fois en privé.
Et comment, qu'est-ce que vous avez ressenti du personnage?
Très, il était un gentleman, hein. C'est pas le c'était vraiment un homme extraordinaire, Fidel Castro. Il a fait des études brillantissimes, il est vraiment un homme formidable. À connaître, il est intéressant.
Et Indira Gandhi?
Oh ben ça, Madame Gandhi, je l'ai rencontrée plusieurs fois, elle, en Inde. Elle est venue même chez moi à Paris.
Pourquoi? Comment?
Quand elle est venue voir la présidente Pompidou, elle est venue me voir ici, parce que je la connaissais de l'Inde.
Elle connaissait vos vêtements, parce que c'est pas la même mode.
Non, on avait toujours une épaule nue, vous savez.
Et puis vous avez connu Poutine tout jeune.
Oui, Poutine, bien sûr, qui m'a signé mon premier contrat en Russie.
Pour faire un défilé sur la Place Rouge.
Voilà.
Et comment
ça
il
a été un triomphe. 200 000 personnes.
Comment est venue cette idée de faire un défilé de mode sur la Place Rouge?
Ben, c'était le lendemain du 29 au 19 juillet. De l'époque, la Russie s'était ouverte. J'ai dit, je vais aller en Russie, mais j'y étais déjà avant pour défiler. Et il m'a donné mon autorisation.
Et il était sympa, Poutine, à l'école?
Très, très, avec moi.
Oui.
Je sais pas, avec les autres, avec moi, très sympathique. Il m'a donné toutes les autorisations.
Vous l'avez revu ensuite, Poutine?
Oui, je l'ai revu aux ambassades quand il est venu à Paris.
Il se souvenait de tout ça?
Quand il lui a dit, quand on a présenté au Quai d'Orsay tous les membres de la politique française,
il était... plus. Il
était... Pierre Cardin. Pierre Canin? Oh, mais je connais très bien Pierre Canin. J'ai été même avec ma femme à son défilé Place Rouge. J'ai connu des gens extraordinaires.
Et vous n'avez pas fait que ça, on en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 4 mai 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Cardin.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Pierre Cardin nous a quittés hier à l'âge de 98 ans. Créateur de mode, producteur de théâtre, il était aussi un homme d'affaires de génie. Au début des années 80, il a acheté le restaurant Maxim's, un symbole de la vie parisienne dont il a fait une marque internationale.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Pierre Cardin, avec une date, 4 mai 1981. Ce jour-là, vous rachetez un restaurant prestigieux de la rue Royale à Paris, Maxim's. Et la surprise est générale parce que personne n'imaginait que ce lieu mythique de Paris allait être repris par Pierre Cardin.
Oui, c'est les Vaudables qui m'ont téléphoné.
Vaudables était le propriétaire de Maxim's.
Non, ils étaient locataires.
Oui.
Moi, je suis propriétaire du building.
Oui.
J'ai racheté le building.
Et un jour, ils vous ont téléphoné.
Ils m'ont téléphoné en me disant, écoutez, on aimerait vous parler. Est-ce que vous pourriez venir dîner avec nous le soir? J'ai dit oui, avec plaisir, parce que j'étais client. Il me dit, voilà, nous avons, notre fils ne veut pas faire la succession. Il ne veut pas être dans la restauration, le fils du Baudal. Nous avons décidé de vendre, nous avons un arabe qui est sur la piste. On aimerait mieux que ça reste français. Est-ce que, éventuellement, avant de leur parler bien à d'autres personnes, nous serions ravis de que ce soit vous qui soyez notre successeur? Bon, ça a été pris. 4 millions quand même.
Oui.
Et j'ai demandé les prix, tout, etc. Et puis, j'ai laissé mon réfléchir au moins jusqu'à lundi, parce que c'est quand même une somme importante, 4 millions, à l'époque.
Oui. Et alors, vous avez réfléchi vous...
J'ai réfléchi, mais nous n'avons qu'une seule date, c'est lundi, sinon c'est vendu. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous attendez jusqu'à lundi soir? Enfin, j'attendais un chèque d'Amérique de plusieurs millions. Il m'a dit, oui, un jour, ça va, mais pas plus, parce que nous avons des Arabes qui veulent l'acheter. J'ai dit, non. Attendez quand même que ça reste français. Il y a peut-être la possibilité que je devienne le successeur. Alors, il m'a dit, si c'est vous, nous serions ravis. On s'est revu le lundi. J'ai signé et je suis devenu propriétaire. Ça s'est fait en 48 heures.
C'est incroyable. C'était une chose importante pour vous, c'était mythique, Maxime.
Il y avait 4 millions quand même à sortir.
Oui, mais c'était mythique d'avoir le nom de Maxims.
J'en avais vraiment pas besoin entre nous. Mais c'était quand même le pari que j'ai acheté, un peu de pari. Je suis très ambitieux, comme je vous l'ai dit.
Mais en même temps, vous avez eu le génie, il n'y a pas d'autre mot, de lancer la marque Maxims. Personne n'y avait pas.
J'ai fait des licences.
Comment est venue l'idée?
Mais comme la couture m'avait servi de leçon.
C'est-à-dire que vous avez, il y a aujourd'hui des produits Maxims dans le monde entier.
Oui, oui, oui. Et dans les gares, dans les aéroports, partout, oui.
Personne n'y avait pensé avant vous.
Ben, les licences, c'est moi qui ai pensé en premier.
Oui, personne n'avait fait ça avant vous. Et les produits Maxims, vous avez toujours tout surveillé. Il ne s'agissait pas de donner votre nom à n'importe quoi.
Non. C'est des produits, d'ailleurs des boutiques à moi. Rue Royale, c'est à moi. Au Louvre. Non, j'ai investi beaucoup également là-dedans.
Par passion?
Pas par ambition, mais par désir de réussir.
Oui, mais en même temps, la marque Maxime, c'était mythique dans le monde entier.
Ah, bien sûr, c'est le seul nom connu dans le monde entier.
Et vous avez fait?
Enfin, le seul nom dans la nourriture.
Oui, mais moi, je me souviens un jour avoir été dans votre bureau, vous aviez 5-6 panettones et vous deviez choisir le panettone Maxims.
Voilà.
Parce que vous choisissiez absolument tout.
Pas tout, n'exagérons pas, je fais confiance tout de même.
Oui.
Heureusement, sinon je ne pourrais pas, tout simplement. Non, mais je participe beaucoup. Là, les meubles, c'est pareil. Personne n'y croyait à mes meubles. Vous avez vu le succès de mes meubles?
Oui. Et vous avez fait des meubles rouges,
je
de toutes les
pas
couleurs
parce qu'il y a tout le...
Non, mais vous avez fait des prototypes, des meubles rouges, verts,
oui, oui.
Qu'on reconnaît entre mille.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, ils sont dans les galeries d'art.
Énorme succès, les meubles, énorme succès.
Et vous avez aussi ouvert des restaurants Maxims. Des restaurants avec Maxims dans le monde entier.
Bien sûr, oui.
Ça aussi, il fallait
j'avais
penser.
J'avais fait New York, j'avais fait Los Angeles, j'avais fait Londres, j'avais fait Tokyo, j'en ai fait pas mal.
Et tout ça par passion, toujours, parce que...
Oui, parce que c'était une marque. Je trouvais que c'était une des marques françaises les plus connues, Maxime.
Exactement. Et la Chine, bien sûr.
Il y en a en Chine également, oui.
Alors, la Chine, Pierre Cardin, comment êtes-vous arrivé en Chine? Parce que vous êtes un dieu vivant.
Oh, j'ai voyagé beaucoup en Chine, oui. C'était mon rêve, je dis, un jour. Comme j'ai fait avec la Russie, j'étais le premier en Russie, le premier en Chine, le premier au Japon.
Et
c'est
en Chine,
pas mal.
Non, mais en Chine, c'est arrivé comment?
En Chine, j'avais une amie qui était chinoise, qui était Madame Song, vous l'avez connue. C'est à travers elle que j'ai pu pénétrer en Chine.
Et non seulement vous avez pu pénétrer en Chine, mais vous avez fabriqué des costumes pour les ouvriers chinois.
Ah, mais oui, même pour les militaires.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des usines qui fabriquent du
carton. Tous les militaires étaient les chemins de fer, les militaires, c'est moi qui les ai dessinés, qui ai fait les prototypes, en tout cas, en plus.
Et aujourd'hui, il y a des tas de Chinois qui sont
mis en place. Ah, mais oui, l'armée.
L'armée est habillée par vous. Et à chaque fois, c'est...
Enfin, depuis, ça remonte assez loin maintenant.
Oui.
Peut-être qu'ils ont changé, j'en sais rien.
Mais vous avez connu la Chine interdite, la Chine cité interdite.
Ah, mais oui, j'étais le seul. Je passais sans passeport. Au départ, je passais sans passeport pour aller à Pékin.
Pourquoi?
Parce que j'étais un ami. Il m'avait adopté comme ami.
Et pourquoi? C'est à cause des vêtements? Vous avez réussi... Comment
oui.
Vous avez réussi à imposer qu'un Français
Parce
fasse...
J'étais tout de suite au top avec la Chine. Avec la fille de Deng Xiaoping, j'étais toujours pris dans le frère, la sœur, la fille.
Des dirigeants chinois.
Grâce à Madame Song, grâce oui. à Madame Song.
Vous avez habillé les dirigeants chinois et tout le reste en a découlé.
Mais évidemment.
Et ça, faut encore.
C'est comme la commandature russe. On a envoyé des avions particuliers à Paris prendre mes Cooper pour faire des essayages à Moscou, au Kremlin. Vous vous rendez compte ce que j'ai fait dans ma carrière.
Et puis, vous avez organisé un défilé dans la cité interdite.
200 000 personnes.
Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Racontez-moi.
Bah, écoutez, c'était presque inattendu pour moi. Vous le racontez, c'était tellement immense que défilé, vous comprenez, dans cette place énorme, gigantesque. C'est un rêve qui s'est réalisé, mais encore maintenant, je me dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que je ne suis pas un peu...
Mais quand vous avez proposé l'idée, ça a tout de suite plu ou ça, on vous a pris pour un
comme
fou?
Comme j'étais le premier à aller en Chine, oui. Donc j'étais le bienvenu.
Et alors, quand vous avez dit, je vais faire un défilé dans la cité interdite...
Oui, c'est l'idée de tous en col Mao, hein, oui. à l'époque. J'ai des photos aussi, là, en col.
Vous n'avez pas mis de col Mao? Vous avez mis des col Mao à l'époque, non?
Non, je n'ai pas fait des col Mao. Je n'allais pas leur apprendre à faire des col Mao. Non, j'ai... Ils étaient tous en col Mao.
Et moi, je me souviens aussi de la Chine. Les stars à l'époque, c'était Alain Delon, bien sûr, très star en Chine. Et Sophie Marceau, aujourd'hui, qui est star en Chine. Les comédiens.
Au Japon.
Au Japon aussi et en Chine. Il y a Pierre Cardin, Alain Delon et Sophie Marceau.
Mais moi, quand même, il y a pas mal de dizaines d'années. Hein. Au Japon, Delon est venu après, Mireille Mathieu est venue après, Catherine Deneuve est venue après. Enfin, ils sont tous venus après moi. Il y a longtemps que je vais au Japon.
Vous avez vu les pays évoluer?
Oh, ben j'ai vu le Japon en bois et maintenant tout en béton.
C'est assez curieux, non?
Ah, mais oui, moi je l'ai connu en bois. En bois et des parapluies.
Ah bon, c'est-à-dire?
Ils avaient des parapluies de couleur. Toute la rue, je suis resté 2 mois là-bas, la première fois. Et tout le monde avait plu la pluie pendant 2 mois.
Et vous avez été aussi ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. Ça, c'est une chose qui vous a beaucoup touché.
Ça également, oui, je suis ambassadeur.
Comment c'est arrivé?
On m'a nommé. Ça, je ne sais pas moi-même qui m'a nommé, mais on m'a nommé.
C'était pour l'alimentation et l'agriculture. Ça consistait en quoi?
Un jour, on m'a dit, vous êtes honoré par le gouvernement pour être ambassadeur de... J'ai jamais su la raison, par ma popularité peut-être.
Et alors, ça consistait en quoi comme...
Paraître et être décoré. Et puis aller de temps en temps, ce que je n'ai pas souvent le temps, aller à l'ONU.
Pour parler de tout
pour
ça.
Pour parler, mais je suis un homme actif, moi. Eux, ils n'ont pas beaucoup de choses à dire, mais en longueur. Alors que moi, j'ai beaucoup de choses à dire en cours.
Et votre bâton de maréchal, c'est quand même l'Académie des Beaux-Arts.
Ça, oui, ça... On... C'est l'Institut de France. Je suis le seul académicien couturier à l'Institut.
Comment ça s'est fait? Ça, comment s'est né cette idée?
Ils m'ont demandé. Ils m'ont honoré, tout simplement.
Et ça vous a intéressé, bien sûr.
Qui ne veut pas être académicien? C'est quand même la plus haute distinction française.
Et à l'inverse d'autres qui se font dessiner leur costume, vous avez vous-même dessiné le costume et l'épée?
D'abord, un peu mon épée, oui. Et puis après, j'ai continué à faire de l'eau minérale, des bouteilles, des...
Être reçu à l'Académie des Beaux-Arts, c'était un événement important.
Ben écoutez, c'est la plus haute distinction d'un Français.
Et vous avez été reçu...
Je suis déjà Légion d'honneur, académicien, c'est top.
Oui, mais en même temps, ça veut dire des responsabilités. Il faut y aller le mercredi pour des séances.
J'y allais tous les mercredis pendant des années. C'était en 91, je crois que j'ai été nommé. J'ai pas manqué un mercredi, mais après j'ai été malade, j'étais un peu souffrant, alors j'ai pas pu y aller.
Mais ça consiste en quoi ces réunions à l'Académie des Beaux-Arts?
Ben un peu de la gestion, il y a des événements, il y a des visites, il y a des décisions de talent sur les peintres, les peintres, enfin des conversations.
Voilà, mais en même temps il faut être là parce qu'on défend une forme d'art.
On défend les artistes, oui.
Et la couture, pour vous, c'est une forme d'art?
Oh, évidemment. Fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous êtes dans un désert nu. Qui êtes-vous nu? Rien. Vous mettez un kimono, vous êtes japonais.
Et c'est comme ça, effectivement, la couture est importante.
Une peinture, vous allez dans les musées, que ce soit à Paris ou Louvre ou ailleurs, les flamands, par exemple. Grâce aux flamands, vous savez qui c'est, hollandais. Vous avez la nationalité. C'est un langage très important, la mode.
Alors, il y a quelqu'un qui est entré à l'Académie des Beaux-Arts, la première femme, et Dieu sait si elle est chère à votre cœur, c'est Jeanne Moreau.
C'est moi qui l'ai fait rentrer, en parenthèse. J'ai beaucoup insisté parce qu'elle, comme actrice, elle méritait d'être honorée, quand même.
Oui, c'est une des 15 femmes les plus sexy du monde, d'après un magazine américain.
Écoutez, ça, c'est, je suis mal placé pour vous le dire. En tout cas, elle était une femme merveilleuse, brillante, intelligente et discrète et en même temps quand même très humble, malgré son prestige qu'elle avait autour d'elle.
On a souvent dit que vous auriez dû épouser Jeanne Moreau, Pierre Cardin.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir d'enfant, alors.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas eu d'enfant, vous...
On n'a pas pu, on ne pouvait pas, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en a eu un, Jérôme. Mais après, elle a eu une opération, donc c'était délicat.
Et vous auriez pu épouser Jeanne Moreau?
Ah oui, si j'avais une femme à épouser, c'est Jeanne que j'aurais épousée. Parce qu'elle n'était jamais ennuyeuse et en même temps très, très compréhensible. C'est-à-dire qu'elle pouvait tout accepter avec modestie et intelligence.
Vous l'avez rencontrée comment?
Jeanne, elle est venue me voir. C'est Chanel, en réalité, qui me l'a envoyée. Chose bizarre. Il y a un jeune garçon qui a du talent, un joli garçon qui a du talent. Il est habillé de Faubourg Saint-Honoré. Et Jeanne devait faire un film. Elle avait besoin de costumes immédiats. Elle est venue me voir, et puis voilà.
Vous êtes pratiquement jamais quitté jusqu'au bout?
Non, on a vécu 4 ans ensemble. On est restés amis, bien sûr.
Bien sûr, mais c'est resté un des grands souvenirs de votre vie.
Oui, ça l'est. C'est pas resté, c'est. C'est une femme qui avait une tendresse et un respect de l'autre. On ne s'est jamais dit zut. C'est rare un couple.
Merci Pierre Cardin d'avoir participé à Clés d'une vie. Et puis dans quelques instants, on retrouve Brigitte Taillé comme tous les jours. Et merci encore Pierre Cardin.
Merci.